L'appuntamento dell'Opera Studio.
Try to remember the kind of September when life was slow.
Ça vient ça.
Les lents et fous, les sans les roues, les.
C'est dans
le. Les lents des roues, le.
En espagnol.
De l'opéra.
Ah, pas bienvenue.
Studio.
The Opera Studio's Rendezvous.
Los Encuentros del Opera Studio.
Les rendez-vous de l'Opera Studio.
Les rendez-vous de l'Opera Studio.
Les rendez-vous de l'Opera Studio.
Poznanie Opera Studio.
Merhaba, le rendez-vous de l'Opera Studio.
Les rendez-vous de l'Opera Studio.
Les rendez-vous de l'Opera Studio.
Les rendez-vous de l'Opera Studio.
Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro des rendez-vous de l'Opéra Studio. Je reçois aujourd'hui une jeune soprano britannique, membre de l'Opéra Studio de l'Opéra National du Rhin, qui a gentiment accepté mon invitation sur RDL 103.5. J'ai nommé la talentueuse Louisa Stirland. Chère Louisa, bonjour.
Bonjour.
Merci beaucoup donc d'être ici dans ces studios de RDL 103.5 pour répondre à quelques questions te concernant. Et tout de suite, la toute première, depuis quand fais-tu de la musique ?
J'ai toujours chanté. Quand j'étais petite, je chantais des chansons Disney,
oui.
Ou des vieilles comédies musicales, comme en français c'est la mélodie de Bonheur, c'est le Sound of Music en anglais. Ou My Fair Lady, c'est la même, je pense.
Oui.
je répétais simplement les chansons que j'entendais et je chantais tout le temps. mes parents plaisantaient souvent en disant qu'ils savaient toujours où j'étais parce qu'ils m'entendaient chanter. C'est seulement quand ça devenait silencieux qu'il commençait à s'inquiéter.
Se demander où tu étais passée. Ah oui, c'est pratique ça, remarque, pour surveiller les enfants. Voilà, un enfant chanteur, ça c'est bien. Et alors donc, tu as chanté depuis toute petite, en fait. Est-ce que tu te souviens du premier jour où tu as chanté ou alors, en fait, tu as toujours chanté et puis c'est comme ça.
Oui.
Tu as toujours chanté.
Toujours
il n'y a
chanté.
Pas eu un jour, une chanson spéciale, une mélodie particulière qui a fait que tu t'es dit, oh là là, c'est tellement beau, mais je vais me mettre à chanter moi aussi. Non.
Non.
Tu étais un bébé chanteur.
Exactement.
Ah, mais oui, mais c'est très bien. Et ton premier souvenir musical, alors, quel était-il en fait? Est-ce que tu es allé voir un spectacle? Est-ce que tu as entendu une personne qui chantait à côté de toi?
Oui, ma mère me chantait des berceuses quand j'étais petite.
Oui.
Et je croyais qu'elle les avait inventées elle-même.
Oui.
C'est seulement quand je suis devenue adulte que j'ai compris qu'elle chantait tellement faux que je ne reconnais même pas les chansons.
Oh non, c'est pas vrai. Mais tu t'endormais quand même ou tu faisais des cauchemars? Tu pouvais dormir, elle chantait, tu t'endormais quand même.
Oui, mais oui. C'est...
C'était juste la voix de ta maman.
C'était impossible de reconnaître.
De reconnaître la mélodie.
Oui, exactement.
Bon, j'espère que ta maman...
Elle ne chante pas.
J'espère que ta maman ne va pas écouter l'émission parce que sinon elle va être très vexée. Bon, on lui dira rien.
Mais
ça va rester entre nous.
Je préfère encore sa version.
La version d'une maman, il n'y a rien de mieux. Et donc, tu as chanté, tu étais une enfant, tu chantais tout le temps, tes parents te repéraient parce qu'ils, voilà, ils t'entendaient chanter. Mais un jour, quand même, peut-être, tu as commencé à prendre des cours de chant. Comment ça s'est passé? Est-ce que tu as pris des cours de chant très jeune ou est-ce que c'est arrivé assez tard?
Je ne m'en souviens pas très bien. Je crois que j'étais un peu timide.
Ouais.
Et on m'avait fait chanter Close to You, The Carpenters. Et ça, c'est tout que je...
C'est tout ce dont tu
Exactement.
Te souviens, c'est ça? Mais tu as pris des cours de chant après, quand tu étais plus adulte, enfin, je ne sais pas, quand tu as été un petit peu plus grande, si on peut dire. Non? Parce que, c'est intéressant, tu chantes sans avoir pris de cours de chant. Mais j'apprends toujours beaucoup de choses quand je vous interroge mes invités. C'est très, très bien. Alors, donc, tu es chanteuse depuis toujours. Est-ce que tu joues d'un instrument? Parce qu'on sait que les chanteurs ont souvent besoin de s'accompagner pour apprendre leur rôle, pour apprendre les mélodies qu'ils ont à travailler. Est-ce que toi, tu t'accompagnes un tout petit peu au piano ou à la guitare, je ne sais pas.
Pas vraiment, mais un peu. Ouais. Quand je suis entrée au conservatoire en Angleterre, il fallait avoir le grade 5
oui.
De piano, qui correspond au niveau d'examen en Angleterre. Mais depuis, ils ont supprimé cette obligation, mais j'ai quand même la qualification.
D'accord. Donc, tu as d'abord fait du piano.
Je ne joue très, très bien.
Non, mais tu peux, si tu as quand même, si tu as franchi 5 degrés, je pense que quand même tu dois un petit peu te débrouiller au piano.
C'est le seul cas que j'ai besoin.
Oui, non, mais c'est très bien. Ben, c'est pour ça d'ailleurs, je pense, que pour rentrer dans une classe de chant, dans les conservatoires, on demande à ce que les étudiants fassent un peu de piano parce que, effectivement, après, pour leur métier de chanteur ou de chanteuse, c'est très utile. Ils peuvent travailler un petit peu après, on va en parler après, tout à l'heure. Il faut travailler avec ce qu'on appelle un pianiste chef de chant. Mais comme ça, au début de l'apprentissage, vous pouvez vous débrouiller tout seul et ça, c'est très pratique. Alors, ta maman chantait, bon, pas très juste apparemment. Est-ce qu'elle jouait d'un instrument ou est-ce que dans ta famille, quelqu'un faisait de la musique?
Avec ma famille?
Dans ta famille, oui. Est-ce que des personnes de ton entourage étaient musiciennes?
Non, pas du tout.
Non, tu es le...
Mon père adorait le rock.
Oui, ah, c'est de la musique.
Oui.
Ah bah oui.
Mais... Mes parents ne chantaient, ne jouaient.
Oui, ils ne pratiquaient pas d'instruments, ils ne chantaient pas dans un chœur.
Ils ne méprisaient la musique.
D'accord. Non, c'est... D'accord. Donc, tu es la petite fleur qui a poussé au milieu de tout ça. La petite fleur chantante. On va écouter tout de suite un premier extrait que tu as choisi pour nous, chère Louisa. Est-ce que tu peux nous le présenter, s'il te plaît?
Ah oui. C'est All I Want, Joni Mitchell. Et ce n'est pas ma chanson préférée parce que ça change tout le temps. Mais j'adore cette chanson. Et Joni Mitchell est l'une de mes artistes préférées. Et cette chanson parle de liberté, de savourer la vie.
Très bien, nous écoutons.
Something, what can it be? Oh, I hate you some, I hate you some, I love you some. Oh, I love you when I forget about me. I wanna be strong, I wanna live alone, I wanna belong to the living. Alive, alive, I wanna get up and drive, wanna wreck my stockings in some jukebox dive. Do you want, do you? Chance on maybe finding some sweet romance with me, baby. Well, come on. All I really, really want our love to do is to bring out the best in me and in you too. Kisses, my mind seesaws. Do you see, do you see, do you see how you hurt me, baby? So I hurt you too. Then we both get so blue. I am on a lonely road and I am traveling, looking for the key to set me free. jealousy, the greed is the unraveling. It's the unraveling, and it undoes all the joy that could be. I wanna have fun, I wanna shine like the sun, wanna be the one that you wanna see, wanna knit you a sweater, wanna write you a love letter, wanna make you feel better, wanna make you feel.
Vous écoutez RDL 103.5 et je suis en compagnie de la soprano britannique Louisa Stirland. Chère Louisa, pourrais-tu nous expliquer ce qu'est une soprano?
Une soprano, c'est simplement la voix la plus aiguë. Mm-hmm. On a tous une voix, même si l'on ne chante pas.
Oui.
Et selon si la voix est plus aiguë ou plus grave, on parle de soprano, alto, ténor et basse. Et la plupart des femmes sont soprano et la plupart des hommes sont barytons.
Oui, c'est ça. Donc la voix de soprano, qui est donc la voix la plus aiguë dans les voix féminines, est la voix finalement la plus répandue, la plus naturelle, si on peut dire. Quoique toutes les voix le soient, puisque de toute façon, on est avec une voix et on peut pas se dire « tiens, j'ai envie d'être soprano » ou « j'ai envie d'être mezzo-soprano ». On a une voix de soprano ou pas à la naissance, une voix de mezzo, voilà.
Ce n'est pas notre choix.
Exactement. On fait avec la voix qu'on a. Mais bon, il y a quatre grandes catégories de voix. Bon, à l'intérieur, c'est un peu plus nuancé. Mais disons que toi, tu fais partie de la catégorie des voix aiguës chez les dames.
Très aiguë pour moi.
Très aiguë chez toi. Oui, c'est vrai. D'ailleurs, tu as une, ça s'appelle, enfin, ta catégorie vocale, c'est soprano coloratour, c'est-à-dire oui, qui peut faire là-haut des galipettes avec sa voix dans des sons très aigus. Et donc, tu es maintenant membre de l'Opéra Studio depuis une année et tu es arrivée à l'Opéra Studio. Je le rappelle, pour arriver à l'Opéra Studio, on doit être recrutée tout simplement parmi beaucoup de candidats, plusieurs centaines venus de tous les pays. Donc, Louisa est arrivée chez nous en début de saison dernière. Et donc, avant d'arriver à l'Opéra Studio, avais-tu déjà participé à des projets lyriques, c'est-à-dire à des projets d'opéra?
Oui, j'ai participé à beaucoup d'opéras pendant mes études, puis à quelques autres après aussi. J'ai même chanté la Reine de la Nuit pour un festival d'été en Royaume-Uni. C'était particulièrement amusant.
C'est vrai. Tu es très bien sur justement ce type de répertoire parce que c'est très aigu, très agile et tu es à l'aise. Plus ça monte, plus tu es heureuse. C'est ça, la soprano coloratour, oui, plus ça monte, plus elle est contente. C'est comme ça.
C'est le plus amusant voix, je pense.
Oui, c'est ça. C'est la voix la plus amusante. Je suis d'accord avec toi. Donc, tu as chanté La Reine de la Nuit. Très bien. Et puis, quand tu as participé à des opéras, est-ce que tu peux nous expliquer comment ça se passe, les répétitions d'un opéra? C'est-à-dire, il faut mettre quand même la musique, la mise en scène, on a des costumes, on a des collègues, parce qu'évidemment, on n'est pas tout seul sur la scène. Bon, ça, c'est un petit peu comme quand on est au théâtre dramatique, je dirais. Mais en plus de ça, la dimension un petit peu différente avec les comédies sans musique, c'est que parfois il y a un chœur et donc tout un groupe de gens doivent jouer la comédie et chanter ensemble et avoir des interactions avec les solistes. Tout ça paraît incroyablement complexe. Comment on répète pour arriver à présenter un spectacle d'opéra?
Je pense que c'est très très personnel, mm-hmm, et chaque chanteur travaille différemment. Mais moi, je commence toujours par le texte. Ce qui rend l'opéra si spécial, à mon avis. On peut communiquer avec la musique, bien sûr, mais aussi avec les mots et le théâtre. Et sur scène, j'ai envie d'être comprise dans tous les sens,
oui.
Musicalement, dramatiquement, mais aussi avec les mots, bien sûr. Et puis, je trouve ça aussi plus pratique quand je connais déjà bien les mots. J'ai pu apprendre la musique avec plus de liberté et de précision. Et ça, c'est plus facile d'être présent dans les répétitions.
C'est ça, tu construis ton personnage d'abord à travers le texte.
Oui.
Ensuite, tu apprends la musique, évidemment, qui va. Donc, mais tu pars du texte, et ça, c'est très important de le dire, parce qu'un opéra, c'est une histoire qui est racontée. Il y a de la musique, mais on raconte une histoire. C'est simplement ça, mais c'est, on peut dire, sublimé. Enfin, il y a une touche particulière, puisqu'il y a la musique. Et donc, tu travailles, ça c'est un travail personnel, ce travail dont tu nous parles, mais ensuite viennent les répétitions de mise en scène. Donc, une fois que tu sais ton texte, ta musique par cœur parfaitement, commencent les répétitions de mise en scène. Donc, un metteur en scène va t'expliquer voilà, comment il voit le personnage, ce qu'il aimerait que tu fasses sur scène. Et donc, ces répétitions se font d'abord au piano, pour te permettre de quand même, pour permettre aux chanteurs de chanter, tout en répétant leur mise en scène, et on ne fait pas venir un orchestre, voilà, pour les répétitions de mise en scène, on répète environ 3 semaines souvent, voilà, puis quand le spectacle, la mise en scène est terminée, l'orchestre arrive en fosse, et on recommence à faire quelques répétitions pour s'habituer tous à chanter avec l'orchestre, et que l'orchestre s'habitue aussi aux chanteurs. Évidemment, il y a un chef d'orchestre qui synchronise tout ça. Et puis ensuite, c'est la générale. Et puis ensuite, c'est parti. Et après, on applaudit, on est heureux. Voilà comment ça se passe.
Le raccord aussi.
Après, il y a des raccords. Oui, parce que ce n'est jamais fini. Parce qu'en fait, c'est pas parce qu'on a fait le premier spectacle qu'on se dit, bon, ben, ça y est, c'est OK. Non, pas du tout. Après chaque spectacle ou avant chaque spectacle, le pianiste, chef de chant d'ailleurs, avec qui on a répété, suit toujours avec sa partition et va dire à tel ou tel chanteur, attention là, tu t'es un petit peu trompé, attention là, tu étais un peu trop loin, t'entendais pas, fais attention, mets-toi plutôt de face, etc. Et donc, vous avez toujours ce qu'on appelle un coach, d'ailleurs on appelle ça des coachings quand vous travaillez avec un pianiste, c'est un coach qui est là pour surveiller que tout se passe bien et qui, s'il voit qu'il y a une petite chose à améliorer pour que la fois d'après ça se passe encore mieux, va trouver les chanteurs. Donc c'est un collaborateur très 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 précieux. Le chef de chant. Durant toute cette saison, donc ça, ce sont les opéras que tu as fait avant d'arriver à l'Opéra Studio, mais pendant la saison, parce que maintenant la saison se termine, donc on peut jeter un petit regard sur ce que tu as fait tout au long de cette saison, à l'Opéra Studio, donc à l'Opéra National du Rhin, parce que nous faisons partie, l'Opéra Studio fait partie de l'Opéra National du Rhin, les jeunes artistes d'Opéra Studio sont finalement une troupe de chanteurs. À quels opéras as-tu participé? Quels opéras as-tu chanté sur la grande scène à Strasbourg, Colmar, Mulhouse?
Oui. Cette saison, à l'Opéra Studio, j'ai chanté Le Marchand de Sable.
Oui, Le Marchand de Sable, oui. Oui, dans
Et
Hansel et Gretel.
Rosée,
et voilà,
oui.
Exactement.
Ainsi que Thérèse, dans la MML de
Thérésias, oui, de Francis Poulenc, oui.
Oui. J'ai aussi participé au concert Carte Blanche, au concert féminin pluriel, concert Mozart.
Oui.
Et je participerai au concert Sondheim
en juin prochain.
Oui.
Oui, c'est ça. Donc, en fait, tu as participé sur la grande scène à deux grandes productions. À une grande production, à l'Opéra Volant, Les Mamelles de Tirésias, qui a été faite avec tous tes collègues de l'Opéra Studio, accompagnée à deux pianos par tes collègues pianistes, chefs de chant. Et cet Opéra Volant est parti partout, et donc tu as chanté le rôle de Thérèse, en alternance avec ta collègue Jessica Hopkins, qui est aussi soprano, parce que le rôle de Thérèse est un rôle très exigeant.
Oui.
Et donc, comme on faisait beaucoup de spectacles très rapprochés les uns des autres, pour que vous puissiez vous reposer entre deux représentations, vous alterniez. Voilà. Mmh. Et donc, Thérèse qui en avait marre, je rappelle, d'être une femme, enfin pas d'être une femme, elle en avait marre de faire la cuisine et faire des enfants. Voilà. Enfin, de ne faire que ces deux actions-là. Et puis donc elle décide de partir à la conquête du monde et d'avoir tous les métiers qu'elle a envie d'avoir, qui n'étaient pas à l'époque où ça a été écrit destiné spécialement aux femmes. Et puis finalement, après tout ça, elle revient auprès de son petit mari quand même, qu'elle aime bien. Voilà, et qui est très heureux de la retrouver et qui peut-être a réfléchi pendant l'absence de sa femme. On peut espérer. Tout de suite, chère Louisa, est-ce que tu pourrais nous présenter le deuxième extrait que tu as choisi de nous faire écouter ?
J'ai choisi celle-ci parce que le disco est l'un de mes plaisirs coupables.
Coupable, pourquoi?
On fait chaque matin avant de chanter.
Oui.
Je commence toujours par un échauffement physique, oui, avec quelques étirements et mouvements. Et comme je dois parfois compter pendant certains exercices, j'aime utiliser des chansons disco, parce qu'elles sont entraînantes.
Oui.
Du coup, elles font partie de mon échauffement vocal quotidien.
Ah, ben c'est parfait. Oui. Donc, on écoute. Attention, je me lance. Je vais dire le titre en anglais. Louisa, tu ne ris pas. Ring my bell. C'est parti.
Okay.
Rita Ward nous chante Ring My Bell sur RDL 103.5 et vous êtes toujours sur, vous êtes toujours en train d'écouter les rendez-vous de l'Opéra Studio avec Louisa Stirland. Alors Louisa, à part danser sur du disco le matin pour chauffer ton corps, que fais-tu pour te détendre?
J'aime boire du thé. Comme vraie anglaise.
Tu es anglaise, donc là, bon, obligatoire.
Avec le lait.
Avec le lait.
C'est important.
Mais uniquement dans le thé noir.
Exactement.
Tout à fait.
Non, j'ai bien retenu la... thé vert.
Thé vert, pas possible. Pas possible. Ok.
Et j'aime lire aussi, écouter de la musique. Oui, j'aime regarder de vieux films aussi.
Oui.
La plupart de mes films préférés sont en noir et blanc. Mm-hmm. Et récemment, j'essaie même de regarder des films français, de vieux films français.
Ouais.
Pour l'instant, Le Dernier Métro avec Catherine Deneuve.
Oui.
Et mon préféré, c'est très cool.
C'est vrai. Non, c'est pas Le Dernier Métro ton préféré, parce qu'il est pas très cool. Si, c'est très cool, tu trouves, Le Dernier Métro?
Oui, c'est très,
très, très beau.
Très touché.
Ah, très, très beau. Très, très beau. Ah oui, c'est... très cool, c'est très touchant.
Oui,
d'accord.
Exactement.
Ah oui, c'est très, très beau. Ah, oui,
elle est très
jolie. Une très belle... Ah ben oui, c'est une très belle histoire d'amour. Et oui, ah, oui, ça c'est sûr. Mais revenons-en à ton métier de chanteuse d'opéra, à ta passion de chanteuse d'opéra. Quelles sont, à ton avis, les qualités requises pour être chanteuse d'opéra?
Bon, il faut savoir chanter.
Ah oui, ça c'est vrai. Ça, oui, c'est vrai. Commençons par la base, en effet. Oui, vaut mieux savoir chanter. Ok, alors ensuite.
Il faut aussi beaucoup de patience.
Oui, patience. Ouais.
De force,
ouais.
Et de courage. Mm-hmm. Parce que c'est un métier difficile, tu sais. Je pense qu'il faut aussi beaucoup d'empathie aussi.
Oui. C'est ça. Mais c'est vrai que c'est un métier difficile et surtout, il faut être courageux dans le sens où il faut aimer le travail. Parce qu'en fait, si on faisait le ratio entre le temps qu'on prend pour travailler et le temps pendant lequel on est en spectacle, je ne sais pas, mais à mon avis, on est bien au moins à 5 pour 1 et encore peut-être je suis optimiste. C'est vrai qu'il faut aimer le travail, il faut aimer cette recherche artistique, en fait. Toujours à chercher, à faire pas mieux, mais à faire le plus près possible de ce qu'on a envie d'exprimer. En fait, c'est ça la quête des artistes. C'est pour ça qu'ils sont toujours en train de réfléchir et de travailler pour obtenir ce Graal que je ne sais pas si on obtient un jour, mais de toute façon, on le cherche toujours et ça, c'est passionnant. Et parmi tous les compositeurs et compositrices que tu as abordés depuis que tu es chanteuse, quelles seraient celles et ceux qui te touchent le plus?
Je pense que ma réponse est un peu prévisible, mais c'est Mozart.
Mais oui, c'est magnifique.
Il me touchait énormément, toujours. Oui. La fin de Le Nos de Figaro.
Oui, c'est sublime.
Par exemple.
Mais oui, mais bien sûr.
C'est sublime. Et aussi, il y a quelque chose de très, très humain dans les personnages de Mozart.
Oui, c'est vrai. Il dépeint l'âme humaine vraiment très, très bien et de manière très simple, mais c'est tellement ça. Oui, c'est vrai. Je suis d'accord avec toi. Alors, pour être plus léger, je demande souvent à mes invités s'ils ont une anecdote à raconter. Très souvent, ils me disent, ils me répondent, non. En fait, c'est parce qu'ils ne se souviennent pas, parce qu'il nous arrive toujours des choses dans ce métier. Tu m'as dit que tu en avais plusieurs. Alors, vas-y, allons-y pour la première.
D'accord.
Allez.
Une fois.
Oui.
Je me suis fait télétruquer sur scène.
Télétruquer. Ah non, électrocuter, non?
Électrocuter.
Ah oui.
Électrocuter.
Ah oui. Ah oui.
Électrocuter.
Et alors, qu'est-ce qui s'est passé?
Sur scène.
Mais qu'est-ce qui s'est passé?
Pendant une générale.
Ah bon?
Oui, j'ai joué un oiseau.
Oui.
Et j'étais suspendue avec un harnais.
Oui.
Et il y avait une énorme échelle métallique dans le décor qui était illuminée. Mais mes gants avaient aussi du métal.
Mon Dieu.
Donc, quand j'ai touché l'échelle, j'ai senti l'électricité traverser tout mon corps.
Non, mais c'est pas possible. De la chance que tu nous racontes l'histoire aujourd'hui, parce que quand même, c'est incroyable cette
histoire. J'ai continué de chanter quand même.
Oui. Et peut-être ça montait encore plus aigu, donc qu'est-ce qui s'est passé?
Oui, bon. mais voilà, je suis toujours là.
Ah oui, bravo. Donc, bravo. Alors, bravo. Bon. Là, franchement, bravo. Ah, donc, ça, c'est la première. Bon, électrocuté en scène. Et tu as continué de chanter. Bon,
oui.
Magnifique, très bien.
Bien
alors,
sûr, je suis professionnelle.
Mais bien sûr. The show must go on. Chère Louisa, comment imagines-tu ta vie d'artiste?
La vie d'artiste, ce n'est pas une vie facile, mais je crois que c'est un immense privilège de pouvoir se réinventer constamment. À chaque production, je prends quelque chose de personnage, des costumes, de la musique, de la mise en scène. En moi, un peu comme on replie du fromage dans une omelette.
Ah, d'accord, très bien.
Ça marche. Oui. Ce métier me donne aussi une relation très concrète avec l'histoire et la culture. Et même si ce n'est pas toujours une vie simple, je crois que cette vie m'a choisie plus que je ne l'ai choisie moi-même.
Très bien. Et l'aspect nomade ne t'effraie-t-il pas? C'est-à-dire...
Oui, c'est vrai que c'est parfois difficile d'être loin de sa famille et ses amis, bien sûr. Mais j'ai aussi une capacité particulière à transformer des lieux temporaires en vraie petite chez moi. J'emporte toujours du thé anglais,
oui,
par exemple.
C'est vrai, très bien. C'est vrai.
Partout avec moi. Et je ne voyage jamais très légère.
D'accord.
J'ai besoin d'avoir quelques familières avec moi.
Ouais.
En anglais, on dit souvent « home is where the heart is ». C'est chez soi, c'est là où est le cœur.
Oui, d'accord.
Ça, c'est ma philosophie quand je voyage.
Très bien. Et donc, alors, justement, ça tombe très bien, puisque tu aimes voyager, pourrais-tu nous parler des projets professionnels que tu vas avoir après l'Opéra Studio?
Oui, j'ai quelques projets avec l'Opéra National de Lorraine, de Nancy-Lorraine, et l'Opéra de Dijon aussi. Je joue Olympia dans un tournée. Un projet jeune public.
D'accord, un projet jeune public qui est porté par l'Opéra National de Nancy-Lorraine, qui aura lieu qui va être repris à Dijon. Donc, si vous avez de quoi noter, messieurs, dames, en décembre 26, les 19 et 20, décembre 26, à l'Opéra de Dijon, vous pourrez aller applaudir Louisa. Et un petit peu plus tard, en avril 27, vous pourrez également aller applaudir Louisa dans toujours cette tournée de ce spectacle jeune public autour des extraits de pages musicales de Jacques Offenbach. Et donc à l'Opéra de Nancy, ce sera du 20 au 24 avril 2027. Et justement, cette fois-ci, c'est moi qui voudrais vous faire écouter un air très célèbre qui est extrait des Contes d'Hoffmann de Jacques Offenbach qui est l'air de la poupée. Et cet air que vous allez écouter est interprété ici par Patricia Petitbon, que je salue, qui est une très belle artiste soprano coloratour comme toi, Louisa, que nous avons accueillie à l'Opéra Studio cette saison, qui est venue faire travailler et faire profiter de son expérience à nos jeunes chanteuses, dont toi, Louisa. Et donc, c'est un grand plaisir de l'écouter justement dans l'air de la poupée. Nous écoutons Patricia Petitbon.
Les oiseaux dans la charmille. Jour.
Incroyable, Patricia Petitbon, dans ses sons stratosphériques, dans l'air de la poupée, elle était accompagnée de l'orchestre et du chœur de l'Opéra de Lyon, dirigé par Yves Abel. Et donc ça, c'est le fameux air que tu vas chanter à l'Opéra de Nancy-Lorraine, chère Louisa, et à Dijon, donc en avril 27 et encore avant, en décembre 26. Donc, stratosphérique, ça c'est le, on peut le dire. Pour clore ces rendez-vous de l'Opéra Studio en ta compagnie, chère Louisa, je voudrais terminer comme d'habitude par un petit portrait chinois. Alors, est-ce que tu es prête?
J'ai hâte.
J'ai hâte. Oh là là, j'ai très peur des réponses. Je ne les connais pas. Je pense avoir des surprises. Allez, on y va. Si tu étais un animal imaginaire, qui serais-tu?
Un phénix. C'est du renouveau permanent.
D'accord. Renouveau permanent. Oui. D'accord. Très bien. Le phénix. Si tu étais un peintre.
John William Waterhouse.
Mais bien sûr.
J'adore les préraphaélites.
Oui.
D'accord.
Très bien. Si tu étais un paysage.
Une lande montagneuse.
Ah, très bien. Bah, tu es bien tombée.
Oui.
Tu es bien
un peu tombée. Comme Jane Eyre ou Léo de Hurlevent.
Léo de Hurlevent.
Oui, pendant une tempête.
D'accord. Très, très romantique tout ça. Si tu étais une année historique.
1066.
Ah oui, 1066, oui. En deux mots.
Oui, je me suis un peu fait conquérir par la France aussi.
Tu t'es fait conquérir par la France toi aussi. Bon, alors je vous propose d'aller voir ce qui s'est passé en 1066, chers auditrices et auditeurs. Si tu étais un moment de la journée.
Le crépuscule.
Le crépuscule. Si tu étais une salle de concert.
Le Moulin Rouge.
Le Moulin Rouge, bah bien sûr, pourquoi pas. Si tu étais un opéra.
Rosalka, peut-être.
Rosalka, okay.
Ou les mamelles de Tiresias.
Ou les mamelles de
Tiresias. Ça dépend des journées.
Ça dépend des jours. C'est très difficile de choisir un opéra,
oui.
Parce que effectivement, ça dépend des jours. Alors, aujourd'hui, c'est ça. Si tu étais une artiste.
Joni Mitchell.
Ok, si tu étais un type d'art. L'architecture. C'est vrai que c'est pas facile à dire. Si tu étais un compositeur.
Poulenc.
Oui. Ok, Francis de son prénom. Si tu étais un musée.
The Imperial War Museum.
Oui, d'accord, très bien, merci à tes souhaits. Si tu étais une œuvre d'art.
Un tableau préraphaélite, je pense.
D'accord. Et si tu étais un trait de caractère?
Je pense. La résilience.
La résilience. Oui. Eh ben, ça, c'est très bien. C'est un très beau trait de caractère qui résume tout et qui sauve de bien des situations, oui. N'est-ce pas, chère Louisa? Très, très bien. Eh bien, il me reste plus qu'à te dire merci infiniment d'être venue jusque dans nos studios pour répondre à toutes ces questions. Mon Dieu, qu'il y en avait. Et tu as fait ça très, très brillamment. Je t'en remercie. Je remercie Miss Peggy qui était aux manettes, toujours fidèle au poste. Et nous allons terminer ces rendez-vous de l'Opéra Studio sur le quatrième extrait que tu as choisi pour nous, chère Louisa. Est-ce que tu peux nous le présenter en deux mots?
J'adore ce genre de jazz, mais c'est parfait pour maintenant, parce ouais. que c'est ma dernière année.
C'est ta dernière année. Et donc, c'est...
Studio.
C'est...
Donc, c'est...
OK. Billie Holiday qui nous chante « I'll be seeing you and a goodbye ».
In all the old familiar places that this heart of mine embraces all day through. Chestnut trees, the wishing well. I'll be seeing you in every lovely summer's day, in everything that's light and gay. I'll always think of you that way. I'll find you in the morning sun, and when the night is new, I'll be looking at the moon, but I'll be seeing you. I'll be seeing you in every lovely summer's day, in everything that's light and gay. I'll always think of you that way. I'll find you in the morning sun, and when the night is new, I'll be looking at the moon, but I